en séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
En séance, aujourd'hui, consacre son temps d'antenne à la suite de l'édition spéciale de l'émission Éclairage que vous avez pu écouter avant la pause. Éclairage édition spéciale, le lundi 15 mars 2004, l'Académie des sciences morales et politiques tenait une séance solennelle sous la coupole de l'Institut de France, une séance consacrée au Code civil des Français. Je vous rappelle que le Code civil fut promulgué le 21 mars 1804, nous en fêtons donc le bicentenaire. Code des lois applicables depuis lors à tous les Français, il fut rebaptisé Code Napoléon en 1807, constituant le fondement du droit civil de la France. Il aura ensuite inspiré les législateurs de nombreux pays. Nous repartons tout de suite sous la coupole pour écouter la suite de la communication de l'académicien François Terret sur la destinée du Code civil. À François Terret succédera Gabriel de Breuil de La Française et membre de l'Académie des sciences morales et politiques, Gabriel de Breuil, qui nous parlera de la langue du Code civil. Cette séance solennelle du lundi 15 mars 2004 était présidée par M. Michel Albert, président de l'Académie des sciences morales et politiques pour 2004.
Il est évident qu'il y a dans le code civil des dispositions obsolètes, désuètes. Témoin cet article 1966 qui prévoit que malgré l'article précédent et qui interdit d'agir en justice pour obtenir le paiement d'une dette de jeu ou d'un pari, nous dit que cette règle ne s'applique pas à ceux qui se livrent au jeu propre, à exercer au fait des armes, aux courses à pied et à cheval, aux courses de chariots, aux jeux de paume et aux autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps. Bah, mesdames, messieurs, on s'interroge aisément sur le maintien de ce texte au temps de la loterie nationale, du quartet, du quintet plus, des transferts de joueurs ou des exploits de l'Olympique de Marseille et de la Juventus de Turin. Mais pourtant, il se produit parfois certains dégâts, notamment cet article 526 du Code civil explicitant la liste des biens qui deviennent immeubles par destination, parce qu'ils ont été affectés par leur propriétaire à l'exploitation d'un fonds. Ainsi, les animaux attachés à la culture, les ustensiles aratoires, les semences données aux fermiers, les pigeons des colombiers, les lapins des garettes, les ruches à miel. On se sent enfin à la campagne, une fois eux moins franchis les zones industrielles. Seulement, la liste est restée longtemps telle qu'elle. Il y avait aussi les poissons des étangs. Or, les poissons des étangs ont disparu. Ils ont été remplacés par ceci, que je soumets à vos méditations. Ce ne sont plus les poissons des étangs, ce sont les poissons des eaux non visées, à l'article 402, article 231.3 du Code rural, et des plans d'eau visés aux articles 432 et 433, qui se trouvent visés de la sorte, les poissons des plans d'eau n'ayant aucune communication avec les cours d'eau, canaux et ruisseaux, eau close, entre parenthèses, d'autre part les poissons des piscicultures régulièrement installées et des enclos piscicoles existants. Aucun doute, mesdames, messieurs, les technocrates sont passés par là. Et je dis technocrates, je ne dis pas autre chose. C'est ce qu'il est convenu d'appeler l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi. Objectif, n'oublions pas, monsieur le Président, à valeur constitutionnelle. Il arrive même, d'ailleurs, que la prolixité fasse sourire. Ainsi est-il dit, je cite, que la loi reconnaît l'authenticité de la montagne. Je ne dis pas quoi que ce soit de faux. C'est une reconnaissance volontaire, une reconnaissance forcée, une reconnaissance de la montagne, d'un produit de la nature, d'un enfant naturel de la nature. La montagne est un enfant naturel. Il faut qu'il profite de la succession de son auteur. Mais alors, est la plaine? Mais nous allons vers la discrimination. Et nous allons avoir des ennuis avec le code pénal. Pauvre monsieur Perrichon. Quant à la loi littorale, qui a perdu son article. Il n'y a plus qu'une loi littorale, non pas sur le littoral. Sans doute les flux et les reflux de la mer ont emporté les articles avec eux. Il est évident que de telles formules traduisent à la surface les défauts, un fond de malaise, la forme et le fond amenés à la surface. Il n'en demeure pas moins que cela se relie à une espèce de fièvre de réforme législative. Et ceci est d'autant plus curieux que ces hautes juridictions que nous respectons et que nous admirons, qui se plaignent dans le style un peu des harangues, des mercuriales, des rapports, de l'excès des lois, sont, cela me paraît toujours assez curieux, les premières à proposer des modifications du droit positif et des lois. Chacun a son opinion, et nous retrouvons ici une autre formule, un autre danger, la précipitation. C'était le contraire qui avait été pensé lorsqu'on voulait, à travers des lois mûrement préparées, prendre en compte les résultats de la recherche sociologique, de la sociologie législative, mais cela a disparu. On a même vu, il y a quelques décennies, deux lois du même jour dont l'une abrogeait l'autre. Et il est vrai qu'il était plus facile de faire abroger une loi par une nouvelle loi alors que ni l'une ni l'autre n'était encore entrée en vigueur, ou plutôt, que de faire fonctionner dans un Parlement qui n'est que le meilleur dépositaire, semble-t-il, du pouvoir de faire des lois, le soin de substituer ce travail minutieux à des séances interminables de réponses à des questions orales qui ne sont faites que pour permettre aux parlementaires de rentrer la tête haute dans leur circonscription. Mais ceci va trop loin, me mène trop loin dans cette aventure. Le Code civil a subi les effets de cette fièvre. En matière de divorce, après des réformes, je ne parle pas de 1975, c'est le Moyen-Âge, 1975. En matière de divorce, les réformes sont intervenues en 2000, puis en 2002, puis une réforme est annoncée pour avril 2004. Une sorte de réforme, si vous voulez, qui aboutit en quelque sorte à rétablir un lien entre le droit et la religion. C'est pour faire plaisir aux protestants, dit un auteur, qu'on a introduit le divorce en 1792. C'est pour faire plaisir aux catholiques qu'on a maintenu la séparation de corps en 1884. Je laisse à l'audience, à l'assistance très savante ici, le soin de deviner pour qui, dans une réforme en cours, on introduit bel et bien le divorce par répudiation. Je n'ose pas dire cela, je vais m'exposer à quelques poursuites pénales. Et le fait est que la réforme du nom de famille, le nom de famille qui est véritablement le centre de la famille qui existait encore au temps du Code Napoléon, en matière de nom de famille, une réforme profonde, sans réflexion préalable, voté avec précipitation en 2002, pour être modifié dès l'année suivante, en 2003. Et en 2004, on entend un haut fonctionnaire, je ne cite pas son nom, venir dire, devant un auditoire de juristes médusés et vraiment ébahis, que dans l'application, cette loi nouvelle donne satisfaction, alors qu'elle n'entrera en vigueur que le 1er janvier 2005. Il y a, chez ceux qui font nos lois ou les préparent, une puissance imaginative qui ne peut que donner satisfaction à Giraudoux. Toujours est-il que l'on voit que, attention, une loi peut en cacher une autre. Une autre loi à grande vitesse. Et de fait, plutôt que s'exposer aux lenteurs et aux difficultés de la procédure de cheminement parlementaire, on a recours aux ordonnances, à des ordonnances qui portent ou ne portent pas habilitation du gouvernement à procéder par voie d'ordonnance ayant valeur de loi. Le slogan qui est avancé est le slogan de la simplification. On va vous simplifier le droit afin, pense-t-on, de vous simplifier la vie. Mais c'est un mythe, la simplification du droit. Il n'y a pas de simplification possible. Il y a en réalité dans les sociétés industrielles où il faut bien, ou post-industrielles, modernes, post-modernes, les philosophes, là, je les laisse clairement s'exprimer, il y a en réalité un besoin d'adapter davantage le droit existant à la société, à une société qui est plus avide de solutions, qui est plus demanderesse de solutions et de concepts. Quand on dit aux juristes « Vous êtes trop compliqués et vous êtes trop éloignés du réel », le juriste quand même sourit un petit peu parce que le réel n'est pas simple. Et ceci pour montrer que on relirait quelques passages de Max Weber sur la complexification de la société bureaucratique, on verrait qu'il n'y a pas de simplification possible. Ce qui peut être fait, c'est l'accessibilité à la connaissance et tout le développement de la technologie le montre. Chacun peut trouver en lui-même les moyens de combattre ses propres défauts, comme la science d'ailleurs, mieux que par des lois de bioéthique. Là, je me dépêche, excusez-moi. Je suis trop prolixe, voilà, c'est l'image, c'est le reflet des lois sur celui qui en parle. Et le fait est que l'on voit que le troisième défaut, parce que les deux premiers, on peut les combattre, il suffit de dire non, c'est un acte politique. Le troisième danger, c'est l'étranger. C'est la puissance déjà évoquée de l'influence des créations communautaires de l'Europe et notamment de cette manie aussi dans les instances communautaires d'aller dans les détails, au mépris même de la signification et de la directive. Et alors, on voit dans une Europe qui, sans politique, veut se doter d'un droit, de juridiction suprême sans contrôle de l'application des lois par un organisme supérieur, d'une tour de Babel juridique au sein de laquelle les textes de bureau sont adoptés de manière expéditive, d'une véritable maladie écrivassière, des règles minutieuses. Il y a notamment une disposition d'une directive sur la notion de lit superposé. Alors on a envie de lire le Timée de Socrate sur les concepts inutiles, mais là encore, je ne veux pas être trop long. Et il faut reconnaître que le gouvernement ne donne pas beaucoup d'instructions à ceux qui, dans les instances communautaires, sont chargés de prendre parti et de prendre des décisions face aux problèmes où il se trouve confronté face à des Italiens, des Allemands et des Anglais, que leur gouvernement aide, et leur Parlement aussi aide, à faire leur travail. Et bref, c'est négatif tout cela, mais on peut lutter contre. Et positivement, je voudrais penser que la confiance est possible. La confiance est possible, mais elle suppose alors que dans l'ordonnancement, l'articulation des ensembles et sous-ensembles de règles, le modèle juridique, la structure de droit commun, d'un droit commun fondamental, d'un corps de règles générales, d'une constitution civile de la France, d'un modèle juridique offert au monde, oui, en tout cela, il est possible de revenir à cette idée simple que la loi est une intelligence sans passion, dixit Aristote, et pas une passion sans intelligence. Deux perversions se produisent. Elles ont été admirablement décrites il y a quelques jours par mon collègue et ami Yves Lequette. Elles sont au nombre de deux. La première perversion vient de l'Europe des marchands, une Europe commerciale, financière, délibérément ignorante de tout ce que le droit français doit à l'une de ses traditions, celle du droit écrit et de la morale antique transcendée jusqu'à sa conjonction avec le droit coutumier. Ceux ou celles qui veillent aux valeurs de la France le disent sans être écoutés. Tout endroit aujourd'hui est dominé par l'Europe du Nord. D'autant plus que cette domination sur l'Europe du Sud, celle de la Méditerranée, avec ses structures et ses valeurs, y compris familiales, s'il vous plaît, n'est aucunement contrariée par des idéologues qu'exécrait Bonaparte et qui donnent libre cours aux excès de l'individualisme, de l'égoïsme et, pour tout dire, d'un nouveau fondamentalisme, celui de la religion des droits de l'homme. Mais on peut raison garder à condition de bien comprendre comment assurer une sauvegarde du Code civil. C'est possible. Seulement, il faut prendre en compte dans cette coordination, dans cette harmonisation, le droit n'est que la coexistence des libertés, l'existence du développement de trois ensembles de règles qui perturbent la réflexion. Il y a d'abord le droit de la consommation. La provenance américaine est connue, consumérisme. Et l'Europe s'y est engouffrée au mépris de ses concepts dans le sens d'une réglementation tatillonne et foncièrement inégalitaire. Imagine-t-on, pour traiter des accidents d'automobile, un droit de la seule protection des piétons ? Étant observé d'ailleurs que le piéton français prend vite la mentalité de l'automobiliste quand il sort en voiture le dimanche. Et nous savons maintenant qu'il y a un code dit de la consommation qu'il faut concilier avec le code civil. Libération, donc. Mais n'est-il pas curieux, quand même, que la réglementation du courtage matrimonial ait été perçue à travers le droit de la consommation? Il y a des idées sous-jacentes là-dessus et une sorte de confusion latente entre l'agence matrimoniale et le proxénète. Fait est que traiter de cela dans le droit et dans l'orbite du droit de la consommation, oui, peut-être, pour le marché, puisqu'il s'agit toujours de marché, mais là, le marché de la solitude. Libération, circulation des produits, des services, des valeurs mobilières, des monnaies dans le marché de la famille, à commencer par les enfants, à continuer par les organes, à finir par les couples échangistes, bien entendu. C'est le marché de l'amour et du plaisir. Pas que ça 3, mais pourquoi pas que ça 4, pas que ça 5, pourquoi pas que ça 2? Je n'ai jamais compris cette discrimination, puisqu'il n'y a plus de divorce de paxé. Le deuxième objectif tient au fait du développement d'un droit de la concurrence. Excroissance du droit des commerçants et des affaires, de là une volonté progressive d'annexion de domaines jusque-là préservés, des propriétés intellectuelles, du droit d'auteur et des brevets, sans oublier, bien sûr, une singulière brevetabilité du vivant. Son fer de lance, le principe de précaution, non point que ce principe soit contestable. Mais là encore, on se retrouve confronté à l'évolution du droit des biens, de la propriété, du voisinage, mais aussi à celui de la responsabilité dont on faisait il y a un instant l'éloge, car c'est toute une chose de parler de prévention au sujet des risques avérés et de la précaution qui est relative au risque hypothétique. Il est clair que l'heuristique de la peur a succédé à l'heuristique du progrès. Et alors j'en viens à ma conclusion, au troisième point du deuxième point. Il est utile d'y regarder à deux fois avant de renier la leçon de la célébration du bicentenaire, au-delà des nostalgies qui peuvent donner lieu facilement à des critiques et à des maux d'esprit, il faut voir que ce qu'on a appelé la circulation du modèle juridique français, nous ne devons absolument pas, aujourd'hui moins que jamais, le renier. La mouvance postcoloniale démontre bien l'influence durable des concepts, des idées, des méthodes du droit français. Et je vais même le donner l'exemple le plus affreux, le pire, le Cambodge. Sait-on que le code civil cambodgien était imité du code civil français, sauf en matière de mariage, et que ce code civil a tenu le coup, même sous l'emprise des Khmers rouges. Fallait-il qu'il soit solide ? Et que finalement, il a été tellement utile que les dispositions de ce code civil cambodgien sur l'absence ont donné lieu, évidemment, à des réflexions, à des recherches fondamentales. Rappelons-nous le colonel Chabert. Et je vois aussi qu'il y a un attachement à le code civil. Certains amis libanais ici présents, j'en ai détecté deux. L'habitude des amphithéâtres permet d'assez vite de fixer les figures. Et même de constater quand parfois les figures des étudiants qui ne s'assiedent toujours à la même place se modifient, qu'il y a tout de même quelques déplacements. On sait bien que c'est la conséquence de tumulte ou de turbulence sentimentale. Mais j'en vois deux ici qui sont là et qui ne peuvent pas ne pas penser que parce qu'il s'agissait justement pour un pays si proche de la France de rester fidèle au code civil français, de le traduire en arabe, ce qui est un moyen de maintenir son influence, une influence que, malgré tous les efforts de la francophonie, la langue française ne peut pas finalement assurer. Alexandre Kojève, un des auteurs, acteurs fondamentaux traité de Rome et de ses suites, disait que l'avenir d'une Europe juridique, se ferait autour de la latinité et que c'était en quelque sorte autour de notre mer Athos, la mer Méditerranée, que se feraient les changements et les adaptations nécessaires. Parce qu'il s'agit d'une véritable expérience des rapports avec les mœurs, à travers les trois cheminements d'une pensée et d'un intellect, les données sensibles, les catégories de l'entendement et les principes de la raison. Là où celle-ci, jointe à l'expérience, conforte le bon sens, tout conduit le juriste à écouter un philosophe, dont le message aujourd'hui est tout de même toujours d'une étonnante actualité. Le voici. Je ne saurais aucunement approuver ces humeurs brouillonnes et inquiètes qui, n'étant appelées ni par leur naissance, ni par leur fortune au maniement des affaires publiques, ne laissent pas d'y faire toujours en idée quelques nouvelles réformations. Signé René Descartes. Si l'on reste fidèle à cette sagesse, il y a donc encore toute raison d'espérer pour entreprendre.
Je donne la parole maintenant à M. Gabriel de Broglie de l'Académie française sur la langue du Code civil.
Le Code civil, on l'a déjà dit, est une cathédrale classée parmi les monuments historiques du droit. Mais sur quoi se porte l'admiration des visiteurs ? L'édifice est ancien. Il a été construit avec quelques défauts et a beaucoup souffert. Son architecture d'ensemble paraît incomplète. La distribution des espaces n'est pas homogène. Trop d'édicules ont encombré ses voûtes, mais ce qui n'a pas cessé de provoquer l'admiration, c'est la qualité du matériau. Si tout n'est pas de marbre, le regard est attiré par la beauté du parement, la finesse du grain, la vigueur de la sculpture et l'incroyable solidité des parois. Laissons là la métaphore architecturale et ouvrons ces pages. Ce que nous célébrons après 200 ans, ce qui jouit d'un prestige, met en lumière les symboles, s'inscrit dans les mémoires, n'est-ce pas la langue du Code civil ? Laissons aussi les gloses savantes. Ce sont des impressions de lecture qui nous révéleront le mieux la magie du texte de 1804. Et je ne résisterai pas, après d'autres, à l'envie de citer, sous cette coupole, quelques formules lapidaires. Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. L'enfant conçu dans le mariage a pour père le mari. La propriété, le droit de jouir, de la manière la plus absolue, en effet. Je ne redis pas l'article 1382, mais cet autre, on ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée. Et le fameux « en fait de meubles, possession vaut titre ». Ces phrases sont pétries d'histoire et chargées d'avenir. On est émerveillé de leur limpidité, que ne trouble aucune note, aucune adjonction, aucun renvoi. Chacune contient une disposition que soutient une idée, elle-même rattachée à un principe. Toutefois, quelle que soit la force de leur style direct, ce ne sont pas ces quelques adages qui suffiront à nous imprégner de la langue du Code civil. Il faut en lire un chapitre pour goûter la succession des phrases brèves, l'enchaînement des articles, la simplicité de l'ensemble. Le premier consul avait confié au rédacteur la mission d'écrire un code pour les Français qui furent leur pacte social et eut une valeur universelle. Ils y réussirent brillamment. Leur style n'est pas seulement limpide, il est évocateur, créateur et exprime avec force une déclaration des droits de l'homme privé. À mesure que se poursuit la lecture, naît une impression différente. Les mots sont concrets, les expressions pittoresques, on l'a vu. Ainsi, les lais et relais de la mer, les îles et atterrissements, les récoltes pendantes par la racine, l'acte respectueux pour demander l'autorisation de se marier, le testament mystique qui est à la fois public et secret. Les verbes sont efficaces. Ainsi, les créances, les dettes et les servitudes s'éteignent et revivent. La prescription court. Le partage est consommé. On déferre le serment. On désavoue son écriture. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. L'alluvion profite aux propriétaires riverains. On assiste même à de petites scènes, comme la déclaration de naissance, en mer éventuellement, la célébration du mariage, la rédaction du testament, qui paraissent tirées de Balzac, à moins que ce ne soit la comédie humaine qui romance le Code civil. Que penser de cet article, malheureusement aujourd'hui disparu, qui évoque un vieux film comique ? Je le cite. « Lorsque les différents étages d'une maison appartiennent à divers propriétaires, le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche. Le propriétaire du premier étage fait l'escalier qui y conduit. Le propriétaire du second étage fait à partir du premier l'escalier qui conduit chez lui, et ainsi de suite. » En 1927, Richard Joris avait publié un roman, Le navire Argo, uniquement composé des exemples du littré. On pourrait faire un compte, d'ailleurs poignant, avec les articles du Code civil. Tous ne sont pas de la même veine. Il y a des parties obscures, l'ensemble est désordonné, le système de rédaction est loin d'être uniforme. Le livre 1, relatif aux droits des personnes, est écrit au futur, porteur de changements, de promesses, produisant un effet opposé à celui de l'imparfait chez Proust, censé inspirer le doute, la nostalgie. Les livres 2 et 3, relatifs aux biens et aux contrats, le sont au présent plus factuels. Dans certains cas, le Code procède de façon didactique, en donnant d'abord la définition, puis les divisions, puis les conséquences et parfois des exemples. Dans d'autres cas, la sentence tombe en termes tranchants. En règle habituelle, plus le sujet est vaste, plus le texte est simple. Mais il existe une grande variété d'exceptions, de réserves, souvent formulées avec art, sous forme d'incises, sauf si ce qui sera dit, ou hors le cas de, si ce n'est, pourvu que ne pas. En tout cas, il n'existe aucun développement théorique, aucune justification. L'ensemble est écrit d'un style souverain, élégant, facile à mémoriser. Stendhal n'écrivait-il pas de Civita Vecchia le 30 octobre 1840 à Balzac en composant la Chartreuse pour prendre le tour? Je lisais chaque matin deux ou trois pages du Code civil afin d'être toujours naturel. Je ne veux pas, par des moyens factices, fasciner l'âme du lecteur. Et Rémy de Gourmont commentait: sa prétention de lire une page du Code civil avant de se mettre au travail n'est que le mot d'un homme qui place au-dessus de tout le naturel, la précision et la clarté, et qui croit que le Code possède ses diverses qualités. Ce sont bien celles du style de Stendhal, et le Code est obscur et diffus. Paul Valéry, lui, a rangé le Code civil parmi les chefs-d'œuvre de la littérature, tandis que, pour plaisanter, Jules Romain recommandait de le lire le soir pour s'endormir. S'il est établi que, du point de vue du style, le Code civil est un chef-d'œuvre, d'où proviennent ses qualités? Certainement pas des commentaires des jurisconsultes, des ordonnances ou des coutumes de l'ancien droit. Malgré quelques emprunts à Potier et à D'Aguesseau, le Code de 1804 rompt définitivement avec le style pompeux, les rédactions embrouillées et les solutions compliquées. A-t-il hérité de cet autre monument qu'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789? La filiation est évidente, mais le style est nouveau, plus dépouillé, renonçant délibérément aux vues philosophiques et aux accents lyriques. On ne trouve pas non plus trace du fracas révolutionnaire qui s'est élevé sous les assemblées constituantes et législatives. Serait-ce alors le style propre du consulat? Pas davantage. Les proclamations enflammées de Bonaparte vibrent mieux que cette prose détachée, clinique. Les orateurs qui ont présenté le Code devant le corps législatif tenaient un discours émaillé d'adjectifs. Je les cite. « Dans le moment de cette grande et salutaire révolution, un élan sublime et généreux proclame quelques-unes de ses maximes fécondes. » Il y a très peu d'adjectifs dans le Code civil. Ce style, dur et lisse comme le porphyre, serait-il inhérent et nécessaire à l'œuvre même de codification? Il aurait alors des ancêtres dans les inscriptions sur les tables de Moïse ou la stèle d'Amourabi, ou plus près de nous dans le Code Frédéric, donnant à la Prusse de 1750 un droit certain et universel. Mais le Code Frédéric remplit trois volumes, alors que l'ambition des premiers rédacteurs révolutionnaires visait un code en 100 articles. Celui de 1804 est en réalité une œuvre collective de grands légistes néoclassiques, plusieurs fois remis en chantier, mais achevés dans la hâte, et inspirés par la puissante volonté politique de Bonaparte de donner à la société civile une charte moderne, connue et comprise de tous, et donc d'un style concis et clair. Cela supposait une synthèse vigoureuse et prospective entre des inspirations juridiques diverses, la coutume et le droit écrit, le droit du Nord et du Midi, l'ancien droit et celui de la Révolution, synthèse aussi entre les préoccupations actuelles et celles de l'avenir. La langue du Code civil, grâce à sa force, à son dépouillement, son abstraction, a sans doute facilité les transactions, quand elle ne les a pas elle-même opérées, une fois pour toutes. Par sa beauté plastique, notre Code s'apparente ainsi au texte sacré. Ces qualités inestimables sont-elles toujours à l'œuvre? Sur 2281 articles, 1115 sont d'origine, ce qui signifie que près de la moitié du Code a résisté aux atteintes du temps et conserve son ordonnance grammaticale et sa qualité stylistique. Cela suffit à conserver à notre Code bicentenaire son caractère de chef-d'œuvre. Mais pour le reste, il semble bien que la main soit perdue. Tout ce qui touche à l'état de la femme, à la vie privée, à la nationalité, aux régimes matrimoniaux, au travail, a suivi l'évolution de la société. Des pans entiers touchant l'agriculture, l'habitation, la construction se sont infiniment compliqués. Des pans nouveaux ont surgi, touchant la bioéthique, le pacte civil de solidarité, la signature électronique, qui n'ont pas la même charge symbolique. Mais surtout, une masse considérable de lois, des codes entiers, sont venus encombrer les 570 pages de l'édition originale et enfler démesurément le volume. Entre les réserves d'interprétation du Conseil constitutionnel, qui enrichissent sans doute, mais compliquent la lecture, et les textes communautaires, qui commencent à imposer leur lourdeur, la 102e édition risque fort de ressembler davantage à un annuaire qu'à un code. Les exemples d'obscurité, de jargon, de verbiage fourmille, je renonce à donner davantage d'échantillons, ce serait, je crois, indigne de cette architecture. Il n'y a plus de style. Est-ce à dire qu'il n'y a plus de code? Toute célébration cultive la mémoire. Si le Code civil a été un agent de rayonnement et de progrès en France, en Europe et au-delà, c'est en grande partie à cause de sa langue qu'on ne peut arracher de son génie simplificateur et libérateur. La langue du Code civil est une des plus belles victoires de Napoléon. Jamais sans doute le français n'est mieux apparu comme le latin des temps modernes. Mais prenons garde de ne pas nous tromper de commémoration. Le bicentenaire du Code civil ne doit pas seulement nous conduire à nous féliciter de sa longévité, de la continuité dont il est le reflet. Il ne suffit pas de conserver ni de restaurer un monument solide, mais immobile. Il faut aujourd'hui retrouver la beauté du modèle et la force des conceptions qui l'ont engendré. Il ne suffit pas de célébrer le bicentenaire, il faut relever l'art d'écrire les codes.
La langue du Code civil, c'était la communication présentée par M. Gabriel de Breuil de La Française, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, sous la coupole de l'Institut de France le lundi 15 mars 2004, à l'occasion d'une séance exceptionnelle, séance solennelle de l'Académie des sciences morales et politiques consacrée au Code civil, le Code Napoléon, dont la France fête le bicentenaire en cette année 2004. Vous pouvez bien sûr retrouver l'intégralité des textes que vous venez d'entendre sur le site de l'Académie des sciences morales et politiques. Il vous suffit de composer l'adresse suivante www.asmp.fr. C'était l'émission En séance, la suite de vos programmes dans un instant.
Vous écoutez Canal Académie.
Toutes les générations se retrouvent sur Radio Canal Académie. Parce que l'histoire est un éternel recommencement, chaque génération enrichit son présent et son futur. Académiciens et élèves de grandes écoles se retrouvent quotidiennement autour du micro de Radio Canal Académie pour échanger leur point de vue sur un thème choisi. Un thème, un académicien, des élèves, plusieurs générations se rencontrent, toutes se retrouvent. Écoutez-les.
Canal Académie.
Mondialisation, régulation, privatisation, génétique, euthanasie, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques participent au grand débat contemporain. Ouvrez leurs rapports, découvrez leurs travaux, écoutez leurs analyses. Éclairage, l'émission destinée à vous faire comprendre le monde, notre monde, ses enjeux aujourd'hui et demain. Éclairage, c'est tous les jours sur Radio Canal Académie.